France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la grève des mineurs de 1948. Cette année-là, la France n'est pas dans son assiette. Pire même, elle déprime. Le pays peine à s'extraire de la guerre, le prix du pain, de la viande et du lait s'envole, mais les salaires, eux, restent désespérément bas, un grand classique dans le système capitaliste. Chez les mineurs, la colère grimpe en même temps que l'inflation. Ces forçats qui ont fièrement gagné la bataille du charbon dans l'immédiate après-guerre se sentent à présent méprisés, sinon trahis. Et lorsque des décrets gouvernementaux rabotent les avantages qu'ils avaient dûment acquis, c'est le feu chez les mineurs. Une grève est votée dans tous les bassins houillers à une écrasante majorité. Elle démarre le 4 octobre 1948. Très rapidement, une féroce répression s'abat sur les grévistes. Les mineurs, écrasés, reprennent le travail 7 semaines plus tard sans rien avoir obtenu. Pire, 4 d'entre eux sont morts. Plusieurs milliers sont arrêtés, condamnés à des peines de prison ferme, licenciés sans espoir de retrouver un travail. Une injustice qui ne trouvera son épilogue qu'en 2015, avec la reconnaissance des préjudices portés à ces hommes. Notre invité aujourd'hui, Dominique Simoneau, autrice du livre « Plus noir dans la nuit » sous titre « La grande grève des mineurs de 1948 », livre paru chez Calman Levy en 2014. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
25 mai 2017, maison syndicale de Lens. Un homme de 96 ans s'avance pour recevoir la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Un hommage bien tardif pour cet ancien mineur, délégué syndical, gréviste de 1948, licencié comme un malpropre par les houillères pour entrave à la liberté du travail. Cet homme s'appelle Norbert Gilmet. On l'écoute.
Cette médaille n'est pas la mienne. Cette médaille est celle de toute une corporation. D'une corporation qui a œuvré à la construction et à la reconstruction de notre pays. Cette médaille est celle des mineurs qui, en octobre 1948, décident à 90% que les décrets Lacoste sont inacceptables et votent la grève. Cette médaille est bien sûr celle des 3000 mineurs arrêtés, emprisonnés, jugés, condamnés, licenciés, chassés de chez eux et ostracisés par les charbonnages, réduits à la misère et leurs familles, condamnés à l'infamie, au déshonneur.
Norbert Gilmet est alors l'un des tout derniers survivants parmi ces mineurs qui ont réclamé justice après leur licenciement par les charbonneuses de France pour le simple fait d'avoir usé du droit de grève inscrit, rappelons-le, dans la Constitution. La mine véhicule une imagerie héroïque, celle d'hommes aux gueules noires et aux regards clairs, accomplissant un travail rude mais noble pour procurer au pays une indispensable énergie. Mais elle n'est pas seulement cela, rappelle La Grande Lutte des Mineurs, film réalisé en 1948 par la CGT, signé Louis Daquin.
La mine, paysages durs et sombres où la poussière noire recouvre tout. La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles. Mais la mine, qu'est-ce encore? Surtout et avant tout des hommes. Ces hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre. Ces hommes meurent jeunes parce qu'ils sont imprégnés de cette poussière de charbon qui de mois en mois pénètre dans les poumons. Ces hommes, ce sont les mineurs à qui on a tout demandé et qui ont tout donné.
Oh oui, les mineurs ont tout donné. De surcroît, pendant la guerre, ils sont des résistants de la première heure, avec la grève patriotique contre l'occupant dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais en 1941. Sans attendre le mot d'ordre du parti lancé en juin, quand l'Allemagne brise le pacte conclu avec l'URSS, des hommes, la plupart cégétistes et communistes, commencent par petits groupes des actions de sabotage, puis lancent une grève le 27 mai. Elle dure jusqu'au 10 juin et mobilise plus de 100 000 mineurs. Trois de ces grévistes, Ovide Legrand, Louis Caron et Louis Le Tien, reviennent sur son déclenchement dans Mémoire de la mine, une production de l'INA en 1981.
Puis il fallait produire pour l'occupant.
Il y a eu un requin. Il voulait faire quelque chose. Il voulait faire voir qu'il y avait opposition quand même à l'occupant.
Nous, on a déclenché le deuxième jour au 6 bis. Tout à fait au départ. Après, il y est 20, tout ça, il a suivi deux ou trois jours après, je crois, hein, ou quatre jours, je m'en souviens plus bien. Et c'est là le départ.
Le mot d'ordre essentiel qui courait au fond de la mine sur tous les wagonnets, c'était ça. Pas de charbon pour les Boches. Pas de charbon pour les Boches. Et ça courait tous les wagonnets, c'était écrit à la craie, etc.
Les femmes disaient, t'as raison de ne pas les travailler. Il faut faire voir que vous êtes là tous. C'est ça qui a fait beaucoup pour la grève aussi. Le soutien des femmes de mineurs.
Les Allemands sévissent durement. Des centaines de mineurs sont arrêtés. La direction, les ingénieurs ou les porions, c'est-à-dire les contremaîtres, désignent les grévistes à l'occupant. Nombre d'entre eux ne reviendront pas des camps où ils sont envoyés. Il n'empêche, pendant toute la guerre, les mineurs multiplient les actes de sabotage, travaillent au ralenti, au point de priver l'envahisseur du rendement maximum qu'il espérait pour faire tourner ses usines. La guerre finie, affaiblie par les restrictions alimentaires, les mineurs redescendent dans les puits, sans entrain. Et ce d'autant plus que les directeurs, ingénieurs et autres responsables connus pour avoir été des collaborateurs retrouvent presque tous leurs postes, relatent les universitaires Marion Fontaine et Xavier Vignat dans un article de la Revue du XXe siècle.
L'attitude des nouvelles autorités républicaines qui entendent limiter les mises à l'écart pour redémarrer au plus vite l'extraction houillère scandalise et écœure la base ouvrière, nourrissant le sentiment d'une épuration bâclée. Au total, sur 800 dossiers examinés, l'épuration aboutit à 2 licenciements, 18 suspensions et 11 rétrogradations. Pour l'historien Étienne de Jong, on aurait voulu ensanglanter le bassin, qu'on n'aurait pas agi autrement.
Pour relever le pays, il faut que les mineurs se remettent au travail avec ardeur. Commence alors une véritable campagne de propagande. Mineurs, le sort de la France est entre tes mains. « La patrie est en danger, mineur, tu peux la sauver !» clament les affiches placardées un peu partout. Et une voix va les stimuler. Celle de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, alors ministre de la fonction publique. La voici, cette voix, lors d'un discours du 21 juillet 1945, tenu du balcon de la mairie de Oisiers, près de Douai, devant une foule de mineurs venus écouter l'homme qui a leur confiance.
« L'intérêt du peuple, l'intérêt de la classe ouvrière est de travailler et de produire. Produisez, produisez, produisez encore et produisez. »
La classe ouvrière se retrousse les manches et relève le défi. Les mineurs vont au charbon, au sens littéral, et produisent dans une ambiance qui révèle du staccanovisme. Ils travaillent jusqu'à 5h du matin, 54 heures par semaine, acceptent de sacrifier la moitié de leur congé payé, descendent au fond les jours fériés. Pour les galvaniser, on fait jouer la concurrence entre équipes. Ceux qui abattent le plus de charbon peuvent gagner un vélo. En moins de 2 ans, la production revient à son niveau d'avant-guerre. L'objectif de 100 000 tonnes par jour est atteint, ce qui est un exploit. Le statut du mineur, adopté le 14 juin 1946, couronne ses efforts. Cette convention collective reconnaît les risques du métier et offre de meilleures conditions salariales, la retraite à 55 ans, la gratuité du logement et du charbon. Le mineur se voit décerner le titre de premier ouvrier de France. En cette même année 1946, la nationalisation de tous les puits de mine du pays sous le nom de Charbonnage de France peut laisser penser aux mineurs qu'ils sont désormais copropriétaires de leur outil de travail. C'est en tout cas ce que suggère cet extrait des actualités de l'époque. On notera toutefois l'usage du conditionnel.
L'ouvrier, l'ingénieur, qui n'avait jusqu'ici aucun droit dans l'entreprise qui les employait, deviendrait les éléments conscients et actifs de la vie de leur mine. Producteurs, ils participeraient à la gestion de leurs entreprises et à la direction de leur industrie.
L'embellie prend fin l'année suivante. En 1947, des grèves éclatent dans tout le pays et dans plusieurs branches professionnelles. La situation sociale est mauvaise. Les prix des denrées alimentaires s'envolent. La folle ascension du beefsteak s'accélère, titre à la une un journal de l'époque. Le kilo de pain passe de 12 à 37 francs entre 1947 et 1948. Le lait de 24 à 40 francs. Le paquet de gauloises qui coûtait 17 francs en 1945 et 4 fois plus cher en 1948. Les salaires, eux, n'augmentent pas en proportion, loin s'en faut. Et puis, des accidents assombrissent plus encore le paysage en cette année 48. Le 11 avril, une explosion dans un puits à Salomine fait 12 morts et 35 blessés. Le 10 septembre, 7 mineurs, dont 3 adolescents, des galibots, comme on dit, meurent dans les mêmes conditions à Avion. Et voilà que le socialiste Robert Lacoste, ministre de l'Industrie, prend des décrets qui annulent nombre d'articles du statut du mineur. Il décide notamment une baisse des salaires, la remise au travail des mineurs atteints de silicose, une diminution des indemnités maladie et des retraites. Les pouvoirs du délégué mineur, qui avait été instauré comme responsable de la sécurité, sont réduits. Et la direction des houillères reprend la main sur certains secteurs, comme le rappelle Norbert Gilmet en 2011 dans l'émission Là-bas chez Tichy.
On avait enlevé la gestion des maladies professionnelles et des accidents du travail aux sociétés de secours minières pour le remettre au patron. C'est le patron qui décidait si l'ouvrier était silicosé et s'il fallait le remonter à la surface. Voilà ce qu'il a fait Lacoste. Et ça, c'est resté.
Les mineurs se sentent trahis, écrasés, bafoués par un gouvernement qui, tout socialiste qu'il est, leur est devenu hostile depuis que les ministres communistes en ont été renvoyés. Avant de décréter la grève, les syndicats organisent une consultation dans tous les bassins miniers. Elle est approuvée à 90%. Le 4 octobre 48, 340 000 mineurs débraillent. Et très rapidement, la tension monte. En ces temps où la guerre froide accentue les antagonismes et où les communistes et la CGT sont vus comme des ennemis de l'intérieur, la presse de droite s'enflamme. Illustration avec cet édito de Robert Lazuric, paru dans l'Aurore du 5 octobre.
Le Cominform veut ruiner l'économie française. Il faut sauver le pays. Chaque jour, près de 200 000 tonnes de charbon vont manquer à l'activité française. Les mineurs ont-ils une raison valable pour soumettre notre pays à une telle épreuve ? Non. Le président du Conseil n'a plus que l'apparence du pouvoir. Ce sont les syndicats, dominés par Moscou, qui en détiennent la réalité. Il faut mettre un terme à ce dessaisissement ou se résigner à l'anarchie, préface de la dictature stalinienne.
Le gouvernement ne reste pas inactif. Jules Moc, ministre de l'Intérieur, ne veut pas entendre les raisons économiques et sociales qui expliquent le mouvement. Non, pour lui, il s'agit d'une grève insurrectionnelle qui cherche à faire tomber le gouvernement pour porter les communistes au pouvoir sur le modèle qui vient d'avoir lieu en Tchécoslovaquie lors du coup de Prague. Préoccupation réelle ou surjouée ? Toujours est-il que Jules Moc envoie la troupe libérer, entre guillemets, les puits de mines défendus par les piquets de grève. Des dizaines de milliers d'hommes, soldats et CRS sont mobilisés. Ils ont l'autorisation de tirer à balles réelles, oui, à balles réelles. Alors voir ces hommes casqués, armés, bottés, pénétrer dans les corons, suivis par des chars, et s'attaquer aux piquets de grève, stupéfie les mineurs et ravive les souvenirs de la guerre. Très vite, des inscriptions CRS-SS fleurissent sur les murs. Oui, c'est de là que date ce slogan qui fera Florès en 68. Jules Moc, lui, n'est plus appelé que Jules Moche, pour la rime aussi avec Bosch. La répression est sans pitié. Premier mort le 7 octobre à Merlebach, en Lorraine, tué à coups de crosse par des CRS. Très rapidement, un grand mouvement de solidarité se met en place dans le pays et au-delà. Norbert Gilmet le relate, à nouveau au micro de Là-bas si j'y suis, en juin 2011.
J'avais été chargé pour m'occuper du recensement, du classement des vêtements, chaussures, sous-vêtements qui venaient de partout pour aider les mineurs. Moi, c'était ma tâche pendant la grève. Et ensuite aussi, l'envoi de nombreux enfants qui ont été accueillis dans la région parisienne pendant 2-3 mois. Il ne faut pas l'oublier, ils ont pris nos enfants pour nous aider dans la région parisienne. Tous les pays qui ont envoyé des vivres, des vêtements, qui ont envoyé de l'argent, de la Pologne, l'Angleterre, l'Amérique, d'Afrique, d'Italie, Pietro Nenni, hein, le socialiste Pietro Nenni qui a condamné le gouvernement français aussi. Il y a eu tout ça, il y a eu la reine de Belgique qui a pris un enfant. Les prêtres qui soutenaient les mineurs, les artistes, les footballeurs. On a eu un mouvement de solidarité, je crois, qui n'a jamais été égalé.
Le 21 octobre, deux autres mineurs sont tués par balle à Firminy, dans la Loire. dans un communiqué repris par un journal local. Le gouvernement prétend que les policiers n'ont fait que répondre à des tirs venant des grévistes. Heureusement, note Dominique Simoneau dans l'ouvrage « Puis noir dans la nuit », il y avait là une vingtaine de journalistes et photographes de presse qui ont tout vu. Indignés, ils ont rédigé un texte qui contredit frontalement le mensonge officiel.
Les journalistes sous-signés protestent contre les informations écrites ou radiodiffusées qui tentent à déformer la vérité. Ils déclarent qu'aucun coup de feu n'a été tiré par les manifestants, que les forces de police ont fait usage de leurs armes sans sommation. Soucieux de remplir en toute objectivité leur mission d'information, ils s'élèvent solennellement contre toute autre version des événements du 21 octobre.
Cette déclaration est signée par des journalistes de Paris Presse, François, Combat, L'Humanité, Daily Express, entre autres. Le 3 novembre, Jules Mox se targue d'avoir fait libérer tous les puits de mine. Dans une allocution radiodiffusée, le ministre de l'Intérieur se présente en défenseur de ceux qui veulent reprendre le travail. Mais qui ? Tout au plus, quelques grévistes minoritaires de la CFTC de Force Ouvrière, un syndicat créé en 1947 avec l'appui de la CIA. Oui, en vue d'affaiblir la CGT. Le vocabulaire employé montre clairement la détestation qu'inspirent CGTistes et communistes.
À l'heure où je parle, dans toute la France, aucun puits n'est plus occupé par un piquet de grève. Partout, en quelques jours ou en quelques heures, les puits ont été dégagés et le travail peut reprendre. Les hommes à la mine, les femmes dans leurs pauvres demeures, étant délivrés de l'oppression des exécutants locaux du Parti communiste. La violence malsaine de quelques énergumènes ne triomphera pas de la volonté de travail de la classe ouvrière. Ainsi, dans la France entière, des hommes libres, désormais assurés de la protection de la loi, s'insurgent contre l'oppression d'une minorité, se refusent à désorganiser plus longtemps notre économie au profit d'intérêts étrangers et lointains.
La grève tient bon, mais les mineurs, surtout estampillés faux, veulent reprendre le travail dès les premiers jours du mouvement. Alors il y a des échauffourées, des maisons sont caillassées, les jaunes sont montrés du doigt. Le ministre Mock en fait un argument pour affirmer que la liberté du travail est mise en cause. Mais ce qui est réellement mis en cause, c'est le droit de grève, garanti par la Constitution. Il n'empêche, la force est du côté du gouvernement. La CGT appelle à reprendre le travail le 29 novembre. La grève a duré 8 semaines. Les mineurs n'ont rien obtenu.
T'es tôt là comme une montagne bien à plage. T'es faux au parti et nos paysages. Nous périors au pain, c'est que je t'éris. Par un beau jour, ils seront évanouis. Par mes pauvres gens, il faudra bien s'y faire. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Par mes pauvres gens, il faudra bien s'y faire. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Quand j'ai au gosse, je grimpe au chutin d'eau. S'il y a vos pas de garde, vite un chevaux filo. Parmi chéral, chez aiguillage, chez beau. Tout le fourbi qui traîne au chuche-carreau, et un grimpeau tout en haut dans la poussière, y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Et un grimpeau tout en haut dans la poussière, y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. T'es tôt un témoin de l'ouvrage et de nos pères, qui ont ouvré tout le vieillette sous le terre. Pour te construire, y a fallu plus de 120 ans, et ravi, ça ne parle plus de t'y a rien de temps. T'es parti rogné par chez Bulldozer. Je te dis adieu, ma vieux Terry de Rimbert. Je reste au Justin face quand je n'ai aucun jeune. Je ravise aux montées des chintes le crinconne. Chez Berlin se croisote, tout dit à la même plage. Toute journée faire le remue-ménage pour aller baler en haut de mes canter. dire qu'il est parti m'enterrer Drambert pour aller baler en haut de mes canters, et dire qu'il est parti m'enterrer Drambert. Je souris quand même parce que je pense à qui te cause, tous ces gens qui se sont fait mourir à l'fosse. Ils se doutent pas en un remontange carbon que le terre servir au à le petit garçon. Ils en frottent une tête noire à grand-père et te dire qu'il n'existe plus Thierry Drambert. Ils en frottent une tête noire à grand-père et te dire qu'il n'existe plus Thierry Drambert. T'es tôt un témoin de l'ouvrage et de nos pères qui ont ouvré tout le vie et sous le terre. Pour te construire, il a fallu plus de 120 ans. Et ravi, ça ne parle plus de ti en rien de temps. T'es parti rogné par chez Bulldozer. Je te dis adieu, ma vieux Thierry Drambert.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la grande grève des mineurs de 1948.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Après la grève et la répression à coups de feu et de matraque, vient l'heure du châtiment. Ils sont des milliers arrêtés, certains pendant la grève, d'autres ultérieurement, et condamnés à des peines de prison ferme. Les procureurs ont reçu des ordres du ministre de la Justice, il faut sévir. Le ministère public fait ainsi systématiquement appel des peines jugées trop clémentes et qui sont alourdies en seconde instance. Certains se voient infliger jusqu'à 3 ans ferme pour troubles à l'ordre public, violence et le plus souvent entrave à la liberté du travail. Les prévenus, d'anciens résistants pour la plupart, sont condamnés par des magistrats qui avaient prêté allégeance à Pétain. Et ce n'est pas tout. Les houillères en rajoutent en licenciant quelques 3000 mineurs, dont nombre de syndicalistes. Oui, l'heure est bien à la vengeance. Georges Carbonnier, 28 ans à l'époque, mineur syndiqué à la CGT, témoigne en 2004 pour le film « L'honneur des gueules noires » de Jean-Luc Reynaud.
Je vais donc au siège de la fosse 7 pour être reçu par l'ingénieur en chef en disant « Voilà, Carbonnier, Georges, sorti de prison, je viens pour reprendre le travail. Non, monsieur, vous êtes licencié. Non, monsieur, vous ne reprendrez pas le travail. Qui plus est ?» Parce que chaque mineur avait sa maison de coron. Nous sommes expulsés de notre logement.
Plus d'emploi, plus de toit, plus de droit au charbon, plus de médecine de la mine, d'école de la mine. Il faut quitter le coron et toute la vie qu'il a générée. Les associations sportives, la fanfare, les concours de pigeons. Grâce à son beau-père, maire de la commune d'Avion, dans le Pas-de-Calais, Georges Carbonnier retrouve un emploi de fossoyeur. Nous aurons l'occasion de reparler de lui. Pour Norbert Gilmet, lui aussi licencié, la situation est pire encore.
J'ai été embauché 2 fois comme terrassier. Et une demi-heure après, on me disait, les mines ne veulent pas qu'on t'embauche. Alors je vais commencer le travail, une demi-heure après, hop. Ah, aussitôt qu'ils étaient prévenus... Par un garde ou par quelqu'un, par un ouvrier, force ouvrière, parfois. Alors, en 52, donc, c'est là que je suis entré à la tribune des mineurs. Je n'avais plus de drap dans mon lit.
Après 4 ans de misère à vivre d'expédients et de la solidarité pour les camarades, Norbert est en effet embauché comme rédacteur à la tribune du mineur, puis au journal communiste Liberté, à Lille. Mais le salaire est maigre. Il vit dans le dénuement, alors que cet homme, intelligent, brillamment reçu au certificat d'études, aurait pu, comme on dit, faire une belle carrière. Si un délégué force ouvrière ne s'était pas opposé à son embauche à un poste pour lequel il avait passé haut la main le difficile concours d'admission. On pourrait ainsi multiplier les histoires de ses vies brisées, de ses familles punies, jetées dans la précarité, le plus souvent avec des enfants en bas âge. D'autres ne sont pas licenciés, mais on les renvoie au fond, en dépit de leur silicose, et on les affecte aux veines les plus pénibles. Déshonneur suprême, et vécu comme tel, ceux qui sont condamnés par la justice sont aussi dégradés par l'armée. Ils sont châtiés, et leurs enfants après eux. Comme Pierre Rabouillat, fils d'un mineur syndicaliste condamné à 4 mois de prison et dégradé de l'armée. L'histoire qu'il relate ici, dans une lettre à son avocate, se déroule 20 ans après la grève.
J'ai compris que moi aussi j'étais puni quand j'ai fait 16 mois de service militaire au lieu de 12. Alors qu'on m'avait confirmé que j'étais soutien de famille. Et ce n'était pas fini. rentrer de l'armée. Je voulais entrer à l'école de gendarmerie motorisée. Là, on m'a fait comprendre que ce n'était pas la peine de faire un dossier, qu'il serait refusé, vu les antécédents de mon père. Cela m'a donné un rude coup. Je voulais tant être gendarme.
Mais malgré les embûches, malgré les difficultés, l'heure de réclamer justice arrive. Deux hommes, chacun de leur côté, dans un premier temps, vont s'attacher à obtenir réparation. Mais la route sera longue. Ces hommes, d'un côté Norbert Gilmet, il est resté à la CGT, il en est même devenu permanent, et il entreprend d'écrire aux ministres, aux sénateurs, aux députés, aux partis, pour faire connaître l'histoire des grévistes et ce qu'il appelle le terrorisme d'État, dont lui et beaucoup d'autres ont été victimes. L'autre, c'est Georges Carbonnier. Après avoir été fossoyeur, il a vendu des assurances, avec succès, mais il a quitté le syndicat lorsqu'il y a été traité de traître à la classe ouvrière. À présent, il a le temps. Il retrouve la trace de 16 mineurs du Pas-de-Calais licenciés en même temps que lui, leur écrit, ou à leur veuve, pour proposer une action commune. La victoire de François Mitterrand en 1981 fait souffler un vent d'optimisme. La gauche, sûrement, fera quelque chose. Hélas, la loi d'amnistie du 4 août douche leurs espoirs. Leur casier judiciaire redevient vierge, certes. Mais pour eux, pas de réhabilitation, pas de reconstitution de carrière. On ne reconnaît pas qu'ils ont été victimes d'une injustice. En 1983, toutefois, lueur d'espoir. Pierre Bérégovoy, ministre de la Solidarité nationale, prend la parole à l'Assemblée lors d'une séance où les communistes ont glissé la reconstitution des carrières des licenciés de 1948 dans une loi portant diverses mesures d'ordre social. L'épisode est relaté par Dominique Simoneau dans Plus Noir dans la nuit.
Pierre Bérégovoy commence par se montrer empli de beaux sentiments.
Cette grande grève de 1948 a profondément marqué le monde minier et le monde syndical. Il était anormal que, 35 ans après, ceux qui avaient vécu durement cette période de lutte soient pénalisés au moment de leur retraite. Le projet de loi qui vous est proposé valide les périodes de chômage consécutives à ces licenciements. C'est une mesure de justice.
Mesure de justice, certes, mais qui devra attendre. Car Bérégovoy annonce que, justement, un groupe de travail planche sur la question.
On imagine la suite. Du groupe de travail, il n'est rien sorti. Les sommes à débourser auraient, dit-on, pesé trop lourdement sur le budget de l'État. Et les courriers et les demandes de rendez-vous se succèdent. En vain, pendant des années et des années. Dans une valse infernale, leur dossier est renvoyé du ministère de la Solidarité nationale qui le renvoie à celui de la Recherche et de l'Industrie, qui bifurque vers la justice en passant par Bercy avant de rebondir vers Matignon et revient à tel ministre lors d'un changement de gouvernement. Résultat, rien. Non, rien d'autre que des réponses lénifiantes. Genre, votre correspondance a bien été reçue par le ministre et fait l'objet d'un examen attentif. En 2004, soit 56 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Industrie, reçoit Georges Carbonnier et Norbert Gilmet. Et il agit. Une disposition de la loi de finances rétablit leurs avantages, mais les réduit à 15 000 euros par foyer, soit 14% seulement de ce qu'ils estiment être leur dû. Bon, c'est un premier pas. Le deuxième a lieu lorsque Georges Carbonnier pousse en 2005 la porte de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Il y est bien reçu. Oui, on l'écoute et on lui conseille de contacter Thiénot Grumbach, un avocat spécialiste du droit du travail et de la défense des syndicats. Cette fois, la machine est lancée. La HALD impose une médiation au ministère de l'Économie, tutelle des charbonnages de France, mais elle échoue. Les services de Christine Lagarde proposent une somme ridicule. Épaulés par quatre autres avocats financés par l'aide juridictionnelle, les mineurs lancent une procédure au prud'homme. Ils perdent en première instance. Qu'à cela ne tienne, ils font appel. Et là, coup de tonnerre. Nous sommes le 11 mars 2011. La Cour d'appel de Versailles reconnaît le caractère discriminatoire du licenciement des 17 mineurs en 48 et ordonne le versement à chaque famille de 30 000 euros en réparation des préjudices. 63 ans après, les mineurs obtiennent justice, enfin. Georges Carbonnier ne le saura jamais. Il est mort en 2006. Il ne reste alors que 7 mineurs en vie sur les 17 représentés au tribunal. Justice. Enfin, pas si vite. Car Christine Lagarde dépose un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. On imagine la colère et l'écœurement face à cette ministre qui refuse 30 000 euros à des mineurs au titre du préjudice subi. Et cette fois, ils perdent pour de bon. Il y a prescription, estime la Cour en cassant l'arrêt en 2012. Mais un combat n'est jamais perdu, comme le rappelle Tino Rumba.
Le plus important, c'est tout ce mouvement qui s'est passé quelque part, qu'apportaient Georges Carbonnier, sa femme, sa famille, ses amis, Norbert, tous ceux qui n'ont jamais abandonné cette idée. Finalement, tant qu'il y a un Mohican, on n'a pas perdu. Le dernier des Mohicans, c'est une grande fable, parce que la guerre n'est jamais perdue, la lutte n'est jamais perdue tant qu'il y a quelqu'un qui se bat. Et Norbert, c'est ça qu'il a porté. C'est qu'il est toujours là, le témoin de ça. Georges l'a été, Norbert l'est aujourd'hui, chacun avec sa particularité, mais ils nous font vivre ce passé pour nous dire que ce passé nous importe au présent, parce qu'il fait sens.
Tino Grumbach avait aussi une expression concernant certaines affaires qu'il appelait les dossiers perdus-gagnés, c'est-à-dire des dossiers perdants juridiquement, mais politiquement gagnants. Ici, le politiquement gagnant passe par le documentaire « L'honneur des gueules noires » de Jean-Luc Reynaud et par l'ouvrage « Plus noir dans la nuit » de Dominique Simoneau, qui donne l'un et l'autre longuement la parole à ses anciens mineurs, toujours debout. Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, en a connaissance, se saisit du dossier, estimant que c'est bien à son ministère qu'il revient de réparer une injustice commise par l'État. Elle fait inscrire un amendement à l'article 100 de la loi de finances pour 2015, amendement que voici.
La République reconnaît 1. Le caractère abusif et discriminatoire du licenciement pour fait de grève des mineurs grévistes de 1948, les atteintes portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui en furent la conséquence. 2. Le droit des mineurs grévistes et de leurs ayants droit à l'indemnisation. 3. Le droit de réintégration des mineurs grévistes dans leurs grades et fonctions honorifiques.
Enfin, les mineurs ont reconquis leurs droits et surtout leur dignité. Il aura fallu pour cela beaucoup de patience et surtout le courage sans faille, l'obstination sans limite d'une poignée d'entre eux, dont Norbert Gilmet, le dernier des Mohicans. Il s'est éteint en octobre 2022.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la grève des mineurs en 1948. Notre invité, Dominique Simoneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'autrice de ce livre, plusieurs fois cité dans le récit, Plus noir, dans la nuit, la grande grève des mineurs de 1948, livre paru en 2014, chez Calmann-Lévy, c'est bien ça. Et alors vous êtes aussi aujourd'hui, parce qu'on dit que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir.
Vous voyez.
Voilà. Et vous êtes aujourd'hui contrôleuse des lieux de privation de liberté. Vous avez pris la succession d'Adeline Hazan.
Voilà.
Alors, comment s'est faite d'abord votre rencontre avec ces mineurs et leurs familles dont vous racontez l'histoire dans ce livre?
Ben c'est grâce à Tino Grumbach que vous citiez.
Ben oui.
Leur avocat. Qui m'a dit, viens, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai un truc pour toi, ça va te plaire. Puis je me suis dit, j'en ai pour une heure. 3-4 heures après, on était toujours au café à bavarder. Et c'est lui qui m'a fait rencontrer l'épouse de Georges Carbonnier, que je suis allée voir dans sa maison de retraite. Et puis ensuite, j'ai écrit un papier. Et plusieurs papiers. Et puis j'ai été contactée par lettre, par Colette Lebrun. Oh, qui était la femme d'un des mineurs licenciés,
oui.
Qui m'écrit « Cher monsieur », parce qu'elle ignorait que j'étais une femme vu mon prénom Dominique, et elle me dit « Vous avez eu la gentillesse de parler de nous, voilà, faudrait revenir nous voir ». Et là, j'y suis retournée, j'ai rencontré Norbert, qui m'attendait, je l'oublierai jamais.
Le dernier des Mohicans.
Ah, sur le quai de Bully-les-Mines, avec sa casquette sur le crâne, et qui a commencé à me parler, mais pas... Lui, c'est pas Tienno, c'est pas une heure, C'est des heures, des heures, des heures. D'ailleurs, j'ai enregistré plein de conversations pour pas en perdre une miette. Puis il me disait, attention à ce que tu vas écrire. Espérons que ce soit correct. Et je me suis dit, bon, c'est une histoire trop compliquée pour en faire que des papiers. Surtout dans le canard, c'est petit, les papiers. Et je me suis dit, je vais écrire un livre. Et
bah voilà. Oui. On a entendu dans un témoignage que les femmes avaient joué un rôle important, parce que vous me parliez des femmes.
Oui.
Lors de la grève de 1941, ce fut le cas aussi en 1948.
Tout à fait, d'ailleurs, quand j'ai rencontré ce groupe de mineurs et leurs épouses, leurs filles, etc., les filles m'ont dit « parler de nos mères ». C'était une petite cérémonie dans un puits pour fêter, je ne me souviens plus quoi, parce que j'y passais ma vie là-bas. Et elles m'ont dit, parlez de nos mères, parlez de nos mères. Par exemple, Colette Lebrun, il crevait de faim hein, pendant la grève. Et après, encore pire pour ceux qui avaient été licenciés, qui avaient tout perdu. Parce que là, comme vous l'avez très bien dit, ils avaient perdu le logement, le médecin des mines, l'école pour les enfants,
la
paroisse, la maison, tout. Et donc, ils n'avaient plus à manger. Et Colette, par exemple, elle faisait de la tarte au riz sans riz, de la tarte du sauté de mouton sans mouton, mais avec des os qui donnaient du goût. Ils se débrouillaient tous de n'importe quelle façon pour trouver à manger. Les femmes étaient incroyablement fortes. Et même si elles râlaient parfois contre leurs époux qui faisaient grève, au fond, elles les soutenaient à mort.
Des témoignages que vous avez entendus, quels souvenirs ces mineurs et leurs épouses hein, gardent-ils de ces semaines de grève? Alors, avant d'être durement pénalisés, il y avait comme dans beaucoup de rêves, enfin les grèves avant, de la joie, de l'espoir et de l'angoisse en même temps. C'était ça les grands.
C'est exactement le résumé, oui, c'est ce qu'on peut dire. Mais les femmes espéraient énormément que leur mari gagnerait, c'est pour ça qu'elles les soutenaient comme ça. Et puis, ce sont des personnages extraordinaires que j'ai rencontrés. Norbert, c'est un personnage de roman. C'est, tous, Daniel Amigo, Raymond Fracoviac, Pierrot Rebouillat, vous avez lu sa lettre, qui n'a jamais pu devenir gendarme, parce qu'il était... Et Norbert avait acquis une telle paranoïa de Hills, les méchants, qu'il ne fallait pas citer le nom de son petit-fils, parce que ça pouvait lui faire tort. Parce qu'il travaillait, je ne peux pas vous dire où, parce que ça pouvait lui causer du tort. D'autres m'ont dit, Jeanne Couchet par exemple, la femme d'Henri m'a dit qu'elle a trois petits-enfants qui ont fait de hautes études, mais qui n'ont jamais pu trouver de poste dans la haute administration. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est parano, je ne sais pas. Mais si ça se trouve, ils ont raison, parce que ces dossiers, ils restent.
Quel est leur sentiment face à ce qu'est devenu l'exploitation minière, donc plus grand-chose, en France? Comment ils vivent ça? Comme un deuil?
Non, je ne crois pas. Ils vivent... Le deuil qu'ils vivent, c'est celui de leur jeunesse, comme un peu nous tous, hein, et celui de leur lutte. Et puis, la reconnaissance envers tous ceux qui ont participé à leur rendre leur honneur, la Légion d'honneur. Ça, c'est Christiane Taubira a été formidable. Il faut rendre hommage à Nicolas Sarkozy qui a commencé, alors que la gauche de 81 s'est montrée mais nullissime. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Ah oui, j'ai bien lu votre lettre, je transmets à tel ministre et je transmets à tel ministre.
Oui, on l'a dit, là, c'était la navette infernale.
Mais ça a duré je ne sais combien d'années. Voilà, le souvenir qu'il garde aussi, c'est d'avoir été reçu à l'Élysée par François Hollande grâce à Christiane Taubira, d'avoir été reçu à l'Hôtel de Ville, d'avoir reçu la Légion d'honneur, d'avoir été remis à l'honneur finalement. Mais Norbert m'a dit, c'est pas suffisant, il faut nous reconstituer la carrière, on doit tous avoir notre carrière, c'est pas encore suffisant. Mais je disais, Norbert, là ça suffit. Même Jeanne Couchet m'a dit, il n'y a plus malheureux que nous quand même. Hein.
C'est la grande phrase qui est forte quand même, parce que c'est des gens qui ont été très malheureux, à tel point que quand les difficultés financières sont arrivées, qu'elles étaient vraiment sévères, il y a eu les bons le cœur, du nom d'un dirigeant communiste, qui était une sorte de monnaie syndicale. Oui. Et alors vous dites que ces bons ont fait l'objet de maintes histoires.
Maintes histoires parce qu'elles étaient prévues pour secourir les grévistes. Et c'était une monnaie qu'on était censé échanger dans les commerces, dans les épiceries, etc., contre de la nourriture. Mais il y a eu un petit trafic qui s'est organisé. Il y a un délégué syndical qui gardait les bons pour lui, un autre qui s'est acheté une moto avec les bons le cœur, d'autres qui achetaient des meubles avec les bons le cœur. Donc ça a fait toute une histoire. Voilà, c'est ça qui... C'est dommage parce que c'était une belle idée. Et bah puis ils ont été accusés de fabriquer de la fausse monnaie par Jules Mocq.
Ah carrément ?
Oui.
Dites-moi ça.
Bah, c'était, il a dit, il fabrique. C'est bon le cœur, c'est de la fausse monnaie finalement.
D'accord.
Puisque ça s'échange, voilà.
Ok.
France Inter. Affaires sensibles.
Dominique Simonneau, parlons de Jules Mocq. Bah, jusqu'alors, plutôt un homme bien, hein, ministre de Léon Blum, opposé aux accords de Munich. Il vote contre les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Il est résistant, tout va bien. Puis là, patatras, le voilà faisant tirer sur la classe ouvrière, lui, le socialiste. Comment expliquer ça ?
Franchement, je n'ai pas pu me l'expliquer. Alors, j'ai vu qu'il avait pris le mort rôdant, vous savez, qui survolait les puits des mines en grève dans son petit avion. Dans son bureau, il avait une énorme carte où il plantait, comme c'était l'ennemi, tous les puits, avec des petits drapeaux, tous les puits en grève. Il avait imaginé, mais comme si c'était la guerre. Il était retourné à la guerre, finalement. Et ce qui est horrible, je trouve, c'est que, comme une grande partie de sa famille a été massacrée dans les camps nazis, on s'est mis à dire « moche, c'est boche ». C'était...
Ouais.
C'est... Mais il a vraiment été acharné dans cette histoire. Ouais. Et je n'ai pas compris. Bah, y avait tout ce complot, toute cette théorie du complot venue de l'extérieur, venue de Moscou, l'ennemi de l'intérieur, voilà. Etc.
Nous sommes dans l'immédiate après-guerre et voilà. Au début de la guerre froide. Vous revenez longuement d'ailleurs sur les débats houleux à l'Assemblée, sur une prétendue note secrète que Mocq détiendrait Sinyadjanov,
oui. Le
numéro 3 soviétique, dans laquelle l'URSS ordonnerait à ses affiliés occidentaux de pousser à fond l'agitation sociale pour entraîner la chute de l'économie française.
Le malheur, vous voyez, c'est que d'abord, cette note, on ne l'a jamais retrouvée, que c'était la veille de la mort de Jdanov, d'ailleurs. Mmh. Et en plus, je dirais que, même si c'est vrai, peut-être, après tout, j'en sais rien, mais on a bien découvert que la CIA avait financé FO contre la CGT, tout peut arriver. Mais les mots des mineurs, ce qu'ils avaient subi comme discrimination, les décrets Lacoste qui leur retiraient tous les avantages, qu'ils avaient gagné, et je dirais même pas acquis, gagné à la sueur de leur front en extrayant du charbon comme des dingues, ça c'était pas faux. Et qui crevait de faim, c'était pas faux. Donc cette grève, elle était très légitime. Donc Mocq, il peut dire ce qu'il veut sur la note de je ne sais qui. Peut-être qu'elle a existé, mais au fond, ça nous importe peu, je dirais. Si on la retrouve, ce sera historiquement très intéressant. Mais cette grève, elle avait des raisons profondes.
Et pourquoi la CGT FO, donc Force Ouvrière, pardon, initialement CGT FO, lors du référendum de début octobre, arrête la grève, il retourne sa veste rapidement.
Oui.
Et pourquoi ?
Bah peut-être pour la raison
qu'on vient d'évoquer.
Peut-être.
Donc il y a quand même des influences extérieures.
Non, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même des influences extérieures. Donc ces influences ont pu venir de l'Union soviétique. Et je dirais, et alors, la grève était légitime tout de même.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Je
ne saurais pas aller plus loin. Je ne suis pas une grande historienne.
Il y a un personnage qui a beaucoup compté pour la réhabilitation de ces mineurs. C'est donc l'avocat Tieno Grumbach, que j'ai appelé Grumbach, parce que c'est germanophone. Fun. Donc ça vient par réflexe. Une figure un peu oubliée aujourd'hui, c'est dommage, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
C'est un mec absolument génial. Un avocat formidable, spécialisé dans le droit social, mais dans la bagarre. Vous avez parlé des dossiers perdus gagnants, gagnants perdus, oui. Bah, de toute façon, il a été très malin. Il est venu me voir, après, il s'est dit, elle va faire un papier, d'autres vont suivre, d'autres ont suivi. Ensuite, il a invoqué toute la poésie du droit qu'il y avait dans ce dossier, comme quoi on pouvait retourner cette histoire de prescription, il a fait remonter la prescription à bien après.
Oui.
Les faits et que ce que la Cour de Versailles a adopté,
validé,
son raisonnement validé. Et finalement, il a gagné ce dossier. Et je suis allée avec Norbert à son enterrement. C'était un moment très, très émouvant.
Bah, racontez-nous.
Ben Norbert, il flageolait parce qu'il était quand même assez âgé, il faut dire. Moi, j'adorais ce gars-là, il m'adorait, donc on y allait tous les deux un vieux copain. Et puis, c'est vrai qu'on est resté un peu à l'écart de la famille, on n'allait pas se mélanger, mais il était là, il continuait à me tenir la jambe en me disant, et tu sais, il avait raison, Tienno, parce que là, la prescription, et là, on mérite mieux que ça, et tu vas voir, j'espère que l'indemnisation sera correcte. C'était correct.
Bien sûr. Dans l'histoire des mineurs français, cet épisode tient une place importante, parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes, il y a eu des grandes catastrophes, Liévin et compagnie, il y a eu des grandes luttes sociales. Est-ce que celle-là tient une place particulière chez les mineurs?
Vous me demandez ça à moi qui ai passé je ne sais pas combien de temps à l'écrire.
Vous avez à me dire oui, quoi.
Je vais vous dire oui. En tout cas, pour moi, elle tient une immense place, pour les mineurs aussi. Et je voudrais ajouter un mot sur Tienno. Il avait su agglutiner autour de lui ce qu'il appelait les avocats camarades, qui étaient de jeunes avocats emplis de talent et de conviction et qui ont porté ce dossier avec lui. Et qui continuent à s'appeler les avocats 1948.
Comment ça s'est passé en prison? Les mineurs sont allés en prison, à la prison de Béthune.
Oui.
Comment ça s'est passé?
D'abord, je voudrais dire que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été condamnés, vous l'avez très bien dit, relevés par des magistrats. J'ai pas envie de dire en ce moment du mal des magistrats. Mais après tout, c'est prescrit aussi. Là, les gars, ils avaient quand même prêté serment. Beaucoup avaient été collabos. Il n'y avait pas eu trop d'épuration dans leur rang. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mmh. En condamnant les grévistes, ils savaient qu'ils allaient tout perdre. Ça, je ne peux pas... C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. Ensuite, la prison de Béthune était pleine à craquer. Et tous les soirs à 20h, ils entonnaient l'Internationale et la Marseillaise, les grévistes à l'intérieur. Et devant la prison, il y avait... toutes les familles, les militants, les cégétistes, les communistes, tous les gens persuadés que les gars avaient raison à l'intérieur, qu'ils l'entonnaient avec eux.
Et il y avait, donc on l'a dit, il y avait pas mal de résistants dans les mineurs. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est les contremaîtres qui les balançaient aux nazis. Enfin, c'est un truc de fou, ça.
Les ingénieurs et les contremaîtres. En 41, ils les ont balancés aux nazis. Et quand en 48, ça a recommencé, est né le slogan CRSSS,
ils
venaient les chercher au fond pour les remonter et les confier à la police avant allemande et à la police française.
Alors, vous disiez il y a un instant, la prison de Béthune était pleine à craquer. Vous êtes contrôleuse des lieux de privation de liberté aujourd'hui en France. Les prisons sont toujours aussi bondées?
C'est pire.
C'est pire que bondées?
C'est pire que bondées, je vous assure que... Allez-y, puisque vous avez le droit de suivre un député ou un sénateur en prison, vous verrez, comme nous, quand on y va, quand l'équipe y va, je crois qu'on a vraiment un haut-le-cœur. Un haut-le-cœur devant tous les rats qui
grouillent,
les rats, les punaises de lit, toutes les vermines, plus le fait que les gens soient enfermés 23 heures sur 24. Je peux vous jurer que ça pourrait plus être possible, là, ce qui s'est passé à la prison de Béthune.
Bien, merci, ce sera le mot de la fin, Dominique Simonneau.
Merci, au revoir. Vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la grande grève des mineurs de 1948, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmaz.